à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du mardi 3 mars 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Au Togo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire du président Faure Gnassingbé avec un taux de 70,78% des voix. Au Cameroun, l'armée affirme avoir tué 10 séparatistes anglophones dans la région du Nord-Ouest. Aux États-Unis, des millions d'électeurs se rendent aux urnes ce mardi dans 14 États dans le cadre des primaires démocrates. L'épidémie de coronavirus progresse dans le monde. Les gouvernements adoptent des mesures d'urgence et pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé annonce qu'il n'y a plus aucun cas d'Ebola en RDC. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a été reçu ce matin par le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Le secrétaire d'État Pompeo a exprimé son soutien au programme de réforme du président Tshisekedi pour lutter contre la corruption, renforcer les institutions démocratiques, améliorer les droits de l'homme, mettre fin à l'impunité. Le secrétaire d'État américain a également réitéré le soutien de Washington aux efforts congolais pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola. D'ailleurs, en ce qui concerne Ebola, il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en RDC, avec la sortie aujourd'hui de la dernière patiente encore hospitalisée dans un centre de traitement. La directrice régionale de l'OMS, le docteur Matechi Dussour-Moëti, s'est déclarée prudemment optimiste quant à une fin prochaine de cette épidémie officiellement déclarée le 1er août 2018. L'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré, précise un porte-parole de l'OMS à Kinshasa. L'épidémie a fait 2264 victimes. Au Togo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire du président Faure Gnassingbé, mais avec un score légèrement en baisse de 70,78% des voix. La commission électorale avait donné le président sortant plus de 72% des suffrages. Le point avec notre correspondante à Lomé Kailos.
La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs de la présidentielle et confirme la victoire de Faure Gnassingbé avec une légère baisse du taux par rapport aux résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, Faure Gnassingbé se retrouve crédité de 70,78% des suffrages exprimés, toujours devant Guillaume Kodjo, 19,46%, et Jean-Pierre Fabre, 4,108%. Le candidat autoproclamé Guillaume Kodjo, qui a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle, a vu son recours rejeté dans son entièreté pour défaut de preuves. Depuis les résultats proclamés par la CENI, Guillaume Kodjo conteste la réélection de Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat. Ajoutons que les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
Le gouvernement camerounais a assuré avoir neutralisé 10 terroristes séparatistes lors d'une opération militaire samedi dans l'ouest anglophone et dément avoir tué des civils, comme l'affirment plusieurs médias en ligne. Le point avec Nathalie Barche.
10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Small Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Il a précisé qu'un commandant séparatiste fait partie des personnes abattues, que du matériel de combat a été retrouvé et qu'un otage a été libéré. Plusieurs médias camerounais en ligne accusent l'armée d'avoir tué une dizaine de civils lors de cette opération. Le gouvernement parle de propagande mensongère et d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Ntumbo. L'armée évoque la mort de 5 civils et assure qu'il s'agit d'un accident dû à l'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs.
Au Sénégal, la justice a accordé la liberté provisoire au militant Guy Marius Sagna en détention préventive depuis 3 mois lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. L'information a été confirmée par son avocat, Guy-Marie Sagnard. Un des militants les plus connus du Sénégal a été interpellé le 29 novembre lors d'une action de protestation contre l'augmentation du prix de l'électricité devant les grilles du palais présidentiel de Dakar, une zone où toute manifestation est interdite depuis 2011. Un drone américain s'est écrasé en plein désert dans le nord du Niger, où les États-Unis disposent d'une importante base de drones armés. C'est ce qu'a indiqué le commandement de l'armée américaine en Afrique sur Twitter. Le 29 février, l'US Africa Command a perdu un drone dans le secteur d'Agadez. Notre première analyse est qu'il s'agit d'une panne mécanique, selon le tweet. C'est le deuxième drone américain qui s'abîme au Niger, pays confronté à des attaques djihadistes meurtrières.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle américaine 2020, les démocrates annoncent une phase cruciale ce super mardi avec des élections primaires dans 14 États. Les précisions avec Timothée Donangmaï.
Un tiers des délégués qui iront à la convention du Parti démocrate sont en jeu, avec des gros lots comme la Californie, le Texas et la Caroline du Nord. Le super mardi permettra pour la première fois de mesurer à l'échelle nationale le poids des 5 candidats encore en course. Après sa récente victoire en Caroline du Sud, l'ancien vice-président Joe Biden compte 50 délégués contre 58 au sénateur Bernie Sanders du Vermont. Les deux sont au coude à coude dans des États comme la Caroline du Nord, mais Sanders bénéficie de sondages favorables en Californie et au Texas, deux gros morceaux de ce super mardi. Malgré leurs difficultés, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, et la députée Tulsi Gabbard de Hawaï restent dans la course. Et pour la première fois, le milliardaire Michael Bloomberg, ancien maire de New York, apparaît sur les bulletins de vote, et ce, après avoir dépensé plusieurs millions de dollars dans une campagne publicitaire. L'autre milliardaire, Tom Steyer, a abandonné la course, tout comme la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota et Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend dans l'Indiana. Klobuchar et Buttigieg ont exprimé leur soutien à Joe Biden.
La liste des pays touchés par le coronavirus s'allonge. Un premier cas de contamination a été détecté en Ukraine, selon l'annonce faite par le ministère de la Santé. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Son état est stable, sans complications, a indiqué Viktor Liashko du ministère ukrainien de la Santé. Habitant de l'ouest de l'Ukraine, l'homme a effectué le mois dernier un voyage en Italie dont il est rentré le 26 février. Il s'est volontairement placé en isolement avant de tomber malade 3 jours plus tard et d'être hospitalisé. Pour sa part, la France a réquisitionné tous les stocks et la production de masques de protection chez les fabricants et les distributeurs pour les fournir aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus. Le réseau social Twitter a demandé à ses employés en Corée du Sud, Hong Kong et au Japon de faire du télétravail. De son côté, Google a demandé aux employés de son siège européen à Dublin de travailler chez eux car l'un d'entre eux présentait des symptômes grippaux. Ils devront toutefois retourner à leur bureau dès demain. L'Iran a annoncé 11 morts supplémentaires, ce qui porte à 77 le nombre de personnes décédées de la maladie dans ce pays. L'épidémie a contaminé plus de 92 000 personnes à travers le monde et fait plus de 3 000 morts.
La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, dit soutenir la Grèce et promet d'aider le pays pour faire face à l'afflux de milliers de migrants venant de la Turquie voisine. Elle a promis 700 millions d'euros, dont la moitié immédiatement, pour gérer la nouvelle vague migratoire. Ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus. Nous resterons fermes et notre unité l'emportera, a déclaré Ursula von der Leyen. Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé inacceptable ce mardi le chantage de la Turquie qui menace de laisser passer des millions de migrants vers l'Europe si elle n'obtient pas une aide de l'Union européenne pour gérer le flux de réfugiés syriens. Le président syrien Bachar el-Assad a annoncé la tenue d'élections législatives le 13 avril dans ce pays en guerre depuis 9 ans. Lors des dernières législatives en 2016, le parti présidentiel Baas et ses alliés avaient remporté la majorité des 250 sièges de l'Assemblée nationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nathalie Barche.
L'Afrique du Sud a replongé dans la récession en 2019. Pour la deuxième année consécutive, son PIB s'est contracté de 1,4% au quatrième trimestre, après une baisse de 0,8% au troisième trimestre, a annoncé l'Office national des statistiques. Sur l'ensemble de l'année 2019, le pays a enregistré une croissance de 0,2%, la plus faible depuis la crise mondiale de 2008. Plus de 3 tonnes d'écailles de pangolins saisies en Côte d'Ivoire en 2017 et 2018 ont été incinérées ce mardi à Abidjan à l'occasion de la Journée internationale de la vie sauvage. Ces écailles partaient pour l'Asie avec des ivoires également saisis, a déclaré le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwaï. En qualité de partenaire, le gouvernement américain a procédé à la formation de plusieurs agents du ministère et de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Le Salon mondial du tourisme de Paris, qui devait se tenir du 12 au 15 mars et accueillir quelques 100 000 visiteurs, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus. Celui de Berlin, qui devait se tenir du 4 au 8 mars, a été annulé vendredi. Des centaines de destinations sont représentées lors de ces salons, recevant des professionnels du tourisme de pays africains comme le Sénégal, Madagascar, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, la Namibie et le Cap-Vert, entre autres.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Fin de la grève des joueurs du Zamalek.
Oui, après avoir annoncé le boycott des entraînements, les joueurs du club égyptien ont finalement repris le travail. Ils avaient décidé de boycotter la séance d'entraînement pour exiger le versement de leur salaire. Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a appelé les Chevaliers Blancs à poursuivre le travail en vue de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un match aller des quarts de finale le week-end dernier au Caire, le Zamalek a battu l'Espérance de Tunis 3-1 et se rend à Rabat ce vendredi pour la rencontre retour.
Leipzig s'excuse après l'expulsion de son stade de spectateurs japonais.
Oui, le club allemand a présenté ses excuses après que ses stadiers ont expulsé dimanche de la Red Bull Arena des spectateurs japonais venus assister au match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen sur fond de crainte du coronavirus. Malheureusement, dans un contexte de grande incertitude entourant cette question, une erreur a été commise de notre part, déplore dans son communiqué le RB Leipzig. Le club rappelle qu'il avait demandé à ses stadiers d'intensifier les contrôles de certains groupes en raison d'un risque potentiel. Le RB Leipzig précise qu'il est en train d'essayer de contacter ses spectateurs nippons, environ une vingtaine selon la presse, pour les inviter pour le prochain match de son équipe.
L'UEFA appelle à ne pas surréagir face au coronavirus.
Oui, par la voix de son président Alexander Seferin, la Confédération européenne de football dit refuser de songer au scénario du pire concernant l'Euro 2020 débutant en juin, alors que plusieurs championnats voient certains de leurs matchs reportés, comme en Italie, voire même suspendus jusqu'au mois d'avril. Comme en Suisse, l'UEFA se dit informée de la situation, mais se refuse pour le moment à évoquer d'éventuels reports de matchs de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa prévus à partir de la semaine prochaine. Le coup d'envoi de l'Euro 2020 éparpillé dans 12 pays d'Europe est prévu pour le 12 juin à Rome, en Italie, pays européen le plus touché par le Covid-19.
NBA, le Heat envoie un message aux Bucks en vue des playoffs.
Oui, Miami a encore montré le chemin face à Milwaukee en s'imposant pour la deuxième fois en autant de confrontations. La clé du match pour le Heat, une défense en mode playoff avec à l'arrivée une nette victoire 105-89. Houston, qui restait sur 5 victoires, est retombé dans ses travers avec une défaite concédée 125-123 chez les Knicks de New York. Le Jazz a glané un deuxième succès de rang à Cleveland 126-113, tandis que Dallas a concédé un deuxième revers de suite à Chicago 109-107. Memphis a battu Atlanta 127-88. Portland a pris le dessus sur Orlando 130-107. San Antonio a été défait à domicile par Indiana 116-111.
Merci Yacouba. côté le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. C'est le Super Tuesday aujourd'hui. Les 14 États américains organisent des primaires dans la course à l'investiture démocrate. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a jeté l'éponge et a porté son soutien à l'ancien vice-président Joe Biden. L'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, aussi soutient Biden après avoir abandonné la course dimanche. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, est donné favori dans plusieurs États, mais Biden espère que sa victoire en Caroline du Sud samedi donnera à sa campagne un nouvel élan. Jim Malone, grand reporter de La Voix de l'Amérique, donne un aperçu du vote de ce mardi et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Joe Biden espère que sa victoire en Caroline du Sud va l'aider à gagner plus de voix dans ses primaires dans 14 États.
Si les démocrates peuvent me nommer, je pense que nous pouvons battre Donald Trump.
We can beat Donald Trump.
Garder Nancy Pelosi au perchoir de la Chambre des représentants et reprendre le Sénat américain.
Sa victoire en Caroline du Sud fait de Biden l'alternative face au favori, le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Sanders, un démocrate socialiste, compte sur des victoires dans les deux plus grands États, la Californie et le Texas, qui ont le plus grand nombre de délégués.
Nous sommes un mouvement populaire, multigénérationnel et multiracial qui va créer une économie et un gouvernement qui fonctionne pour tous et pas seulement les 1%.
That works for all, not just the 1%.
Ce mardi est également le premier grand test pour l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le multimilliardaire a dépensé des centaines de millions de dollars en publicité et fera face au verdict des électeurs ce soir. L'ancien maire de New York critique la réponse du président Trump face à l'épidémie de coronavirus.
À une époque où le président devrait mettre la politique de côté et rallier le peuple américain derrière lui, il continue de diviser en faisant de la politique partisane. Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça.
Les démocrates auront moins de candidats à choisir ce mardi. Ils ne sont plus que 5 dans la course. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a mis fin à sa campagne lundi. La veille, l'ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, s'est lui aussi retiré après une mauvaise performance en Caroline du Sud.
Je ne chercherai plus à être le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, mais je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir un nouveau président démocrate en janvier.
Le milliardaire Tom Steyer a lui aussi abandonné.
Honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais gagner la présidence.
La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, est restée se bat pour des délégués, même si elle n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent.
Et si nous voulons un gouvernement qui ne travaille pas seulement pour les riches et les puissants, mais qui travaille pour nous, il va falloir de grands changements structurels.
Plus de 1300 délégués sont en jeu dans les primaires du Super Tuesday, environ un tiers de délégués qui vont assister à la Convention nationale démocrate en juillet prochain à Charlotte, en Caroline du Nord.
Voilà, et sur l'importance de ce Super Tuesday dans la course à l'investiture démocrate, Idriss Fall a joint Mohamed Mboj, professeur à Manhattan College à New York.
C'est la journée la plus importante en termes de délégués à élire et à envoyer à la convention démocrate. Pour avoir la majorité, 1991 délégués. Déjà, les deux États les plus peuplés aux États-Unis, la Californie et le Texas. Si on y ajoute d'autres États qui sont très peuplés comme North Carolina, Virginia et Massachusetts et Minnesota, on se retrouve avec fondamentalement la majorité dans tout le cycle des primaires, c'est le vote le plus important.
Bernie Sanders et Joe Biden, qui est-ce qui a le plus de chance?
Jusqu'à une semaine, beaucoup de gens pensaient que Sanders, malgré ce qu'on peut appeler l'opposition de l'établissement démocrate, des modèles allaient passer, mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que les candidats centristes comme Pete Buttigieg et Klobuchar ont décidé de laisser tomber immédiatement. Et d'ailleurs, ces deux candidats ont appelé à voter pour Biden, ce qui fait que leurs délégués vont tomber dans l'escarcelle de Biden. Le décompte officiel actuellement fait que Sanders précède Biden de 6 voix, mais si on met les voix de Klobuchar et de Buttigieg dans l'escarcelle de Biden, Biden est déjà au-devant de Sanders.
Si personne n'obtient la majorité ce mardi des délégués, qu'est-ce qui va se passer?
Ils vont aller dans ce qu'ils appellent un brokered convention, donc une convention négociée. La convention négociée, il va y avoir un premier vote pour simplement vérifier que les gens votent selon la manière dont ils ont été élus par leurs propres États. Et s'il n'y a pas de majorité qui se dégage, donc on va aller maintenant à un second vote. Maintenant, dans ce second vote, les délégués sont libres de voter pour qui ils veulent. Et ensuite, on y ajoute les voix de ce qu'on appelle les super-délégués. Les super-délégués, ce sont les fonctionnaires du parti, les présidents de parti, les secrétaires généraux, les trésoriers, chefs de comités locaux, etc., qui n'ont plus le droit de voter au premier tour, mais qui au deuxième tour peuvent voter. Quelquefois aussi, il peut y avoir un troisième, un quatrième ou un cinquième candidat tel que Warren ou bien Bloomberg qui sont toujours là, ce qui va obliger Sanders et Biden, chacun de son côté, de négocier avec Bloomberg, avec Warren. Tu vas me donner tes délégués. Et je te promets que je vais construire un port à New York, ou bien tu vas me donner tes délégués, et je te promets que je vais reconnaître l'existence de l'État, de je ne sais plus quoi. Donc, ce genre de négociation...
De marchandage,
voilà,
je dirais.
Disons négociation politique. Tu me donnes cet avantage politique, je mets mes voix derrière toi. C'est du marchandage politique qu'on trouve toujours.
Voilà, c'était le professeur Mohamed Boyd de Manhattan College à New York.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Au Sénégal, un premier cas de coronavirus a donc été confirmé hier par les autorités sanitaires. L'annonce de cette nouvelle a pris de court beaucoup de Sénégalais qui ont pris peur malgré les assurances des autorités. C'est ce que nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La confirmation du premier cas de coronavirus au Sénégal a installé une certaine psychose chez une partie de la population. Surpris et apeuré par l'annonce des autorités, Anta a rapidement rejoint son domicile pour prendre des mesures de prévention.
Ça m'a fait flipper en fait. J'étais en voyage à Mour et j'étais obligée de retourner au Bercail. Ça m'a tellement fait flipper que je ne pouvais pas y croire. Vraiment, j'ai visité les sites, j'ai appelé mes potes, mes parents et tout. Personnellement, je vais fermer mes portes. Moi, je ne vais pas ouvrir mes portes aux étrangers, primero. Secondo, je vais inciter aux enfants, à mes frères et sœurs, de bien veiller à leurs mains, de se laver, de bien veiller à ce que toute la maison soit tout propre, Inch'Allah.
La prévention et la sérénité doivent être les maîtres mots pour éviter la propagation du virus. C'est l'avis de Mohamed Lamine Baye qui doute cependant de la capacité du Sénégal à contenir efficacement une éventuelle menace à grande échelle.
On doit se protéger, situation nouvelle, comportement nouvel, parce que cette maladie, c'est très difficile de le canaliser. C'est très difficile parce que dans les pays européens, là, ils ont des moyens. Et il fait des dégâts là-bas. Bon, nous sommes des pays pauvres, raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment de moyens pour arrêter ce fléau.
Du côté des autorités, on se veut rassurant. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, indique que toutes les mesures nécessaires sont en place pour garantir une bonne prise en charge du malade et éviter toute propagation du virus.
Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fan. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au COVID-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses deux enfants et de son épouse.
Pour rassurer les populations, les autorités ont également mis en place des mesures préventives allant des numéros verts à une équipe d'intervention mobile chargée de l'évacuation des éventuels cas suspects. En attendant, l'évolution de l'état des personnes ayant partagé le vol Paris-Dakar avec le patient infecté est suivie de près par les autorités sanitaires. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le nouveau coronavirus continue sa progression dans le monde avec plus de 90 000 cas. Le gouvernement met en place des mesures d'urgence pour endiguer le Covid-19 et tente de rassurer les populations. En Afrique, 6 pays sont touchés. Où en est-on dans la recherche du vaccin contre le Covid-19? Les mesures de prévention mises en place sont-elles efficaces? Les gouvernements africains sont-ils suffisamment préparés pour faire face à une possible multiplication des cas sur le continent? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook. VOA Afrique célèbre son 60e anniversaire, 60 ans au service de l'Afrique. C'est le 7 mars 1960 que le service francophone de la Voix de l'Amérique a diffusé sa première émission en direction du continent. Notre 60e anniversaire sera marqué cette semaine par des témoignages et une cérémonie commémorative le 6 mars à notre siège ici à Washington. Arzuma Compaoré a recueilli le témoignage de Claude Porcella, notre collègue à la retraite. Il est ancien chef du service francophone de la VOA.
Je m'appelle Claude Porcella et j'ai passé 35 ans au service francophone de la Voix de l'Amérique. Je suis arrivé en 1966, j'ai quitté en 2003 et j'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie. J'ai commencé assez modestement comme traducteur, puis reporter et puis éditeur, rédacteur en chef et en fin de compte, avant ma retraite, chef du service. J'ai démarré une émission que j'allais animer pendant 25 ans, Antenne USA, qui était un magazine sur les États-Unis, une fenêtre sur l'Amérique. Et cette même année, j'ai eu l'occasion de couvrir le lancement de la fusée Saturne, qui a emmené le premier équipage humain vers la Lune. Un de mes auditeurs un jour m'a écrit et me dit « Monsieur Porcella, grâce à vous, j'ai obtenu mon baccalauréat. Ah. » Et alors il m'explique que parmi les questions auxquelles il devait répondre, il y en avait une qui portait sur Abraham Lincoln. Et comme dans mon émission Antenne USA, il y avait toujours un côté historique, on rappelait un petit peu l'histoire des États-Unis, et bien il a, en écoutant Antenne USA, donc la Voix de l'Amérique, il a eu une très bonne note qui lui a permis de passer son bac. C'est toujours un plaisir de revenir, de revoir les anciens collègues, et je tiens à formuler tous mes voeux les meilleurs pour les prochaines 60 années du service francophone pour l'Afrique.
C'est avec ce titre de Madonna, Holiday, qu'on se quitte dans cette édition. Mise en onde par Georges Léonard Sagnon, à la console John Dryden, à la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans quelques secondes, un autre point sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.
les infos.